premier temps d'une série de La Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de la guerre froide qui conclut cette série, les deux années pendant lesquelles Anaïs Quien nous a proposé chaque lundi matin un feuilleton sur ce thème. La guerre froide, donc. Demain, dans le documentaire d'Anaïs Quien et de Françoise Camard, on parlera d'une vie de couple de part et d'autre du mur. Mercredi, de la guerre froide vue d'en bas. Et jeudi, de la relation américano-soviétique qui continua malgré tout pendant la guerre froide. Et aujourd'hui, eh bien, après que le sommet de l'OTAN se soit tenu, c'était il y a une quinzaine de jours, il a permis donc au président américain Donald Trump de rencontrer ses homologues européens. Nous allons vous parler de cette institution qui vient d'ailleurs de recruter un nouveau membre, le Monténégro. Maurice Weiss, professeur émérite d'histoire des relations internationales à Sciences Po, est avec nous. Il est auteur d'une synthèse sur les relations internationales depuis 1945, qui en est à sa 15e édition, qui vient tout juste de sortir chez Armand Collin. Et Jenny Raflick est également avec nous. Elle est maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise et auteur de La 4e République et l'Alliance Atlantique, paru aux presses universitaires de Rennes. C'était en 2013. Mais tout de suite, bonjour Anaïs Quien.
Bonjour.
Ça vous fait quoi de n'arrêter le feuilleton après 78 épisodes pendant lesquels vous avez parlé depuis deux ans de la fabrique de l'histoire, dans la fabrique de l'histoire, de la fabrique de la guerre froide?
J'ai fait parler surtout.
Surtout.
C'était une belle expérience parce que ça a été l'occasion de rencontrer notamment une jeune garde et une garde un tout petit peu plus ancienne sur cette question de la guerre froide qui était restée un petit peu en friche. D'ailleurs, les premiers historiens que j'ai appelés au tout début me disaient, mais la guerre froide, c'est pas plus du tout un objet qu'on traite aujourd'hui. Et puis finalement, on a construit ensemble ces 78 épisodes. C'était vraiment un travail de collaboration et pas une exploitation des savoirs historiens par la Fabrique de l'Histoire.
Et évidemment, à propos de Jeune Garde, eh bien, vous avez choisi de confier le dernier épisode à la Jeune Garde de la Fabrique de l'Histoire, notre stagiaire Marion Dupont. Et donc, c'est le dernier épisode de cette Fabrique de la guerre froide aujourd'hui.
La guerre froide vue d'aujourd'hui par Marion Dupont.
Věřme dál v socialismus a demokracii.
Vážení přátelé, napřík.
Уважаемые гости.
Do you placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no?
La fabrique de la guerre froide.
C'est une guerre qui s'est passée entre les Américains et les Russes après la Seconde Guerre mondiale. En fait, les Soviétiques, ils étaient communistes et les Américains, ils étaient socialistes. Et en fait, ils n'étaient pas d'accord. Et donc, à Berlin, ils ont séparé la ville en deux avec un mur. Après, je sais pas trop. Je sais qu'ils ont fait aussi une course après pour la Lune, enfin pour l'espace. D'abord, il y a eu les Russes. Avec les Russes qu'ils ont envoyés dans l'espace, puis les Américains avec les premiers hommes sur la Lune.
Род своим гением, своим героическим трудом создал прекрасный в мире космический корабль «Восток». И его очень умное, очень надежное оборудование.
Est-ce que tu sais ce qu'est la guerre froide et comment est-ce que tu la définirais ou comment est-ce que tu la raconterais à quelqu'un?
C'est une guerre entre la Russie et l'Amérique pendant la guerre, après la guerre mondiale, je crois.
Est-ce que c'est fini?
Oui, c'est fini. Mais je sais pas vraiment trop c'est quand.
C'est un climat, c'est plus une atmosphère. C'était un petit peu, voilà, c'était quelque chose qui était en filigrane, la guerre froide. C'est-à-dire qu'on se demandait si ça pouvait pas basculer à un moment ou à un autre.
Je sais qu'à un moment, il y a des missiles qui ont été installés en direction des USA. Bon, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans la baie des cochons ou un truc comme ça. Bon, bref, je sais que c'était extrêmement tendu. Et que c'était sous le président américain qui s'est fait assassiner. Il y a eu plein de films qui sont sortis dessus et de livres aussi Il y en a un hyper ancien, il me semble, en noir et blanc. Il y a une sorte de médecin scientifique qui est un ancien qui est un ancien nazi. Je me souviens plus comment s'appelle ce film, Docteur, je sais pas quoi, ou un
Docteur Folamour.
Ouais, c'est ça. Ça parle de ça, non?
Mr. President, it is not only possible, it is essential. That is the whole idea of this machine, you know. Deterrence is the art of producing in the mind of the enemy the fear to attack.
Bah écoutez, la guerre froide, c'est du passé pour moi. Hein. C'était l'affrontement entre les États-Unis et l'URSS, voilà, avec l'équilibre de la terreur, avec les bombes atomiques. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça la guerre froide, puisqu'il y avait plus de vraies guerres, quoi. Enfin, sauf des guerres latérales, évidemment, où ils s'affrontaient par pays du tiers-monde interposés. J'avais 10 ans là, à l'époque. J'ai des images précises, mais... C'est Khrouchtchev, la fameuse image de Khrouchtchev à l'ONU ayant déchaussé une de ses chaussures et tapant sur la table avec. C'était comique, à la fois comique et pathétique, parce que ça veut dire qu'il était vraiment en colère et que le monde entier se demandait si c'était de la comédie ou s'il voulait vraiment affronter les USA, quoi. Donc ça marque quand même.
Inter, actualité.
Monsieur Rousseau, qui hier nous avait donné un spectacle, disons, moitié Feydeau, moitié Shakespeare, Monsieur Rousseau était ce matin le plus doux des hommes. Il souriait, il était radieux, même avant le vote final, et son intervention a été prononcée sur le ton le meilleur du monde.
Еще обратить ваше внимание, Тато. Смотрите. Нет безнадежных людей, знаете. Даже такие колонизаторы, первые колонизаторы, это испанцы и англичане, представители
Великобритании. Il y a évidemment un peu de véhémence dans le ton, mais c'est naturel à cet orateur fougueux. Et on l'a entendu féliciter les Anglais et même les Américains pour avoir voté comme lui, et ajouter aussi, si seulement l'Assemblée avait pris la même décision pour le désarmement.
Je dirais que c'est la confrontation de deux idéologies, à la fois l'idéologie capitaliste représentée par les États-Unis et l'idéologie communiste par l'Union soviétique, suite en fait à la séparation en fait en deux camps, suite à la Deuxième Guerre mondiale, où un modèle a essayé de s'imposer par rapport à l'autre, et où en fait les nations étaient un petit peu obligées de choisir un camp.
C'était juste après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'aux essais nucléaires qui ont un peu fait flipper la Russie. Et du coup, ils se sont calmés. C'était 93, 94, je ne suis pas certaine. Forcément, le fiasco de la baie des cochons, ça aussi, ça vient en mémoire. Et puis, la phase terminale, la bombe qui explose en forme de champignon, moi, c'est surtout ça qui me vient à l'esprit, mais ça, c'est plus vers la fin. Du coup, voilà.
Voilà pour ce 78e et dernier épisode de notre série sur la guerre froide, préparé par Marion Dupont et réalisé par Françoise Camin. Je vous soupçonne, chère Anaïs, d'une certaine duplicité, en fait. Parce que après 78 épisodes consacrés à la guerre froide, qu'il y ait tant de gens qui ne comprennent rien à ce qu'était la guerre froide et qui pensent, par exemple, que le champignon nucléaire, c'est à la fin et pas au tout début de cette histoire, ça paraît un peu étrange. Je me demande si vous n'avez pas manipulé Marion Dupont pour qu'elle puisse justement faire dire à ces gens qu'on ne sait rien ou qu'on ne comprend rien de cette histoire.
Et peut-être leur suggérer d'aller écouter ces 77 autres épisodes qui restent effectivement accessibles sur le site de la Fabrique de la Guerre Froide.
Oui, Maurice Weiss, bonjour.
Bonjour.
C'est quand même très étrange que, en tout cas, ce qu'on appelle un micro-trottoir, et ça n'a pas de valeur de sondage, fasse ressortir à ce point-là, en tout cas, une méconnaissance à peu près complète. Enfin, il y a des choses, on sait des choses, mais c'est un peu vague tout cela.
Oui, moi je ne suis pas trop surpris. Je ne suis pas trop surpris parce que il y a les connaissances historiques qu'on peut avoir ou ne pas avoir. Il y a ces images comme dans les anciens livres que nous avions à l'école primaire, où il y avait
des vignettes.
Voilà, des choses qui frappaient. La baie des cochons, ça ressort deux fois. Le champignon nucléaire, bien, tout ça, ça ressort.
Khrouchtchev et ses chaussures.
Voilà, c'est très symptomatique. Mais d'un autre côté, moi, je ne suis pas trop surpris parce qu'au fond, il est très difficile de savoir, de concevoir ce qu'est la guerre froide quand on ne l'a pas vécu. Mmh. Et je crois que cela, fondamentalement, c'est le travail des historiens de le faire. Et manifestement, cela est très difficile de se remettre dans l'atmosphère de la guerre froide parce qu'il y a une atmosphère propre à la guerre froide.
Oui, Génie Rafik, bonjour.
Bonjour.
Vous ne l'avez pas vécu, vous êtes trop jeune pour l'avoir vraiment vécu, cette guerre froide en l'occurrence. Vous faites partie de la jeune génération d'historiennes et d'historiens que...
Je vais jouer mon joker, là.
Ce qui a mobilisé autour de cette question-là. Enfin, en tout cas, vous en avez vécu la fin, mais pas le cœur en particulier.
Disons que c'est une enfance de guerre froide.
Voilà. Et donc, cette histoire-là, en l'occurrence, vous avez l'impression, effectivement, que malgré le travail, la remise à jour des historiennes et des historiens, c'est une histoire compliquée à expliquer aujourd'hui parce que justement le passage du temps, la chute du mur de Berlin, les préoccupations qui sont les préoccupations de nos contemporains ont éloigné cette histoire-là de nous.
Alors c'est une histoire assez compliquée effectivement à faire passer notamment aux étudiants parce que je pense qu'il y a une façon de penser qui nous a été inculquée par la guerre froide et en ça je suis bien un enfant de la guerre froide contrairement aux étudiants que j'ai en face de moi aujourd'hui qui ne sont absolument pas dans cette vision du monde, notamment les blocs ou des choses comme ça. Ça leur est des blocs politiques et pas seulement religieux ou économique, voilà. Ce sont des choses qui, effectivement, sont très compliquées à transmettre.
Et pourquoi ? Parce que, justement, ce monde a disparu ? Parce que même l'URSS est devenue une sorte de...
Peut-être parce que la guerre froide, ça n'était pas que politique, que économique. Alors, vous avez annoncé une émission sur la guerre froide vue d'en bas. On avait beaucoup travaillé, on en a déjà parlé d'ailleurs dans certaines émissions ici. On avait beaucoup travaillé, nous, sur le vécu de guerre froide dans un séminaire de recherche avec Emilia Robin. La guerre froide, c'est pas seulement de la géopolitique, c'est pas seulement des relations internationales au sens diplomatique. C'est aussi... alors, je sais que dans les épisode, il y a eu des choses sur le sport, il y a eu des choses sur d'autres formes de combat et d'affrontement. Mais la guerre froide, ça a finalement touché un vécu, presque une identité individuelle pendant des années.
Et comme vous le raconterez demain, des parcours singuliers, pourrait-on dire, dans le documentaire que vous raconterez, de couples, par exemple, qui sont de part et d'autre de ce rideau de fer, par exemple.
Oui, demain, il s'agit en fait du portrait de Simone Feil, qui a épousé un architecte soviétique et avec lequel elle a vécu en Moldavie soviétique pendant la première partie des années 70. Et ensuite, il décide de partir. Alors, elle est française, donc c'est assez facile de partir pour elle. C'est plus compliqué pour lui, on le verra demain. Mais simplement pour revenir à ce que vous disiez, Jenny, effectivement, il y a des cultures de guerre froide. Et même au-delà de ces cultures, ce qui persiste peut-être chez certains aujourd'hui, c'est une certaine nostalgie même de ce monde divisé en deux, parfois des représentations de fiction un peu caricaturales, du bien et du mal, qui s'incarnaient dans ces deux blocs d'une certaine
Savoir
façon.
Savoir qui était l'ennemi, c'était beaucoup plus simple. Pouvoir lui donner un nom, le monde bipolaire, c'est peut-être plus simple.
Et puis, il y a eu toute une galerie aussi de personnages, de fiction générés par ces années de guerre froide, notamment des figures d'espions... des figures de familles séparées par le mur,
d'agents dormants,
on a un retour comme ça évidemment, on l'a tous vu dernièrement dans les fictions américaines notamment dans The Americans, ce couple d'agents soviétiques cachés pendant 30 ans en fait aux États-Unis qui régulièrement sort la nuit ayant pris une babysitter pour garder leurs enfants pour aller voler je ne sais quelle bactérie toxiques qu'ils vont ensuite envoyer à leur dirigeant à Moscou. Voilà, on a un retour comme ça de ce romantisme au parfum de guerre froide qui réactualise un peu, mais qui finalement ne nous permet pas encore ou pas tout à fait parce que ça n'est pas son dessein, d'avoir les idées claires peut-être sur ce qu'était la guerre froide, parce que la guerre froide est aussi un conflit mondial. On ne parle que des États-Unis et que de l'Union soviétique, mais c'est un conflit qui touche bien au-delà de ces deux espaces géographiques et politiques-là.
Et puis tout de même, Maurice Weiss, pour venir à notre sujet du jour qui est l'OTAN, il en reste quand même quelque chose de cette guerre froide. Une institution comme celle de l'OTAN, même si elle n'est pas directement reliée à notre quotidien, est quelque chose que nous connaissons, que nous voyons, que nous envisageons et dont on parle régulièrement dans l'actualité. Et elle est tout de même liée à ce moment de l'après-Seconde Guerre mondiale.
Oui, tout à fait. Je voudrais simplement dire, pour revenir au débat qui vient de passer, c'est que, au fond, la guerre froide, elle était aussi dans les têtes des uns et des autres. C'était une géographie mentale qu'on avait, c'est-à-dire que on ne concevait pas, par exemple, pour les Européens, de passer au-delà du rideau de fer. Et je me rappelle des souvenirs très très forts lors de voyages en Pologne, évidemment avant 1989, ou lors de voyages à Berlin et le passage de Checkpoint Charlie. C'était véritablement des moments d'émotion parce que on avait l'impression qu'on allait dans un autre monde. Et je crois que cela a beaucoup compté dans la géographie mentale des gens. C'est ce qui est le plus difficile probablement à expliquer. Alors pour en revenir à votre question, en réalité, les deux blocs qui se constituent à la suite de la Seconde Guerre mondiale, c'est d'abord un paradoxe. Comment expliquer que les États-Unis et l'Union soviétique, qui étaient des alliés très forts, les États-Unis aidant l'Union soviétique de façon considérable à se mettre au niveau de l'appareil de guerre allemand, comment est-ce que il a été possible qu'en quelques mois, ces deux États...
Et les deux vainqueurs de cette Seconde Guerre mondiale.
Les deux vainqueurs qui ont en même temps célébré la victoire en Europe, le 7 mai 1945 à Reims et le 9 mai à Berlin, comment est-ce qu'il est possible qu'ils se soient retrouvés comme deux adversaires? Et en particulier, comment est-ce qu'il est possible que du côté occidental, on ait abouti à créer une, non pas l'OTAN tout de suite, j'insiste sur ce point, mais l'Alliance Atlantique,
bien sûr.
C'est ça qui est le point important.
Une Alliance Atlantique qui n'était pas une alliance de l'Atlantique Nord, comme ça le sera plus tard, mais de tout l'Atlantique, et qu'il deviendra l'Alliance Atlantique de l'Atlantique Nord.
Voilà, exactement. Et donc, il y a tout un cheminement, si je peux dire, entre 1945 et 1949, qui est important à expliquer, à mon avis.
Pour être très clair, cette alliance atlantique, c'est une alliance de défense. C'est-à-dire que si c'est intéressant de commencer par une émission sur l'OTAN, c'est une des premières institutions fortes créées pour se défendre contre cet ancien allié. Là, il y a quelque chose d'important peut-être à souligner, Jenny Raflick, et qui continue finalement à poser des questions sur l'existence même de l'OTAN à certains moments de crise encore aujourd'hui, puisque cet organisme de défense, finalement, concurrence d'autres organismes de défense qui pourraient exister sur les territoires où elle agit, notamment l'Union européenne.
Alors, de fait, l'OTAN n'est pas le premier, puisque le traité de Bruxelles, l'Union occidentale, l'Union de l'Europe occidentale, comme on l'appelle ensuite, précède l'OTAN. Et l'OTAN se greffe dessus et l'absorbe. Et on a presque là déjà le péché originel au moment de la création de cette concurrence, rivalité permanente entre Europe de la Défense et Alliance Atlantique. Alors, oui, je parle d'OTAN, alors que je dois bien parler d'Alliance Atlantique pour cette période, excusez-moi.
Parce que l'OTAN... Pour nos auditeurs, l'OTAN, on utilise ce terme à partir de 1950.
1950, voilà.
C'est l'organisation.
C'est l'organisation.
L'Alliance, c'est un traité, c'est un pacte, c'est une réunion. L'OTAN, c'est l'organisation.
Voilà, donc l'OTAN, c'est uniquement quand les structures permanentes se mettent en place, puis ensuite le commandement intégré. Donc, il faut quand même rappeler que les Européens se sont entendus d'abord en 1848, c'est le traité de Bruxelles.
1948.
Voilà, 1948. Évidemment, pas pour construire une Europe de la défense, hein. Il faut être lucide, essentiellement pour convaincre les Américains de leur volonté de se défendre face aux Soviétiques et de convaincre les Américains de s'impliquer en Europe.
De rester,
voilà. Et l'OTAN, enfin, l'Alliance Atlantique, pardon, je ne vais pas y arriver, l'Alliance Atlantique vient concrétiser cet espoir européen, c'est-à-dire d'un engagement américain sur le territoire européen pour la défense.
Parce que c'est peut-être une des choses qui a le plus changé, c'est le territoire d'action de cette Alliance Atlantique, de cette OTAN ensuite, qui est vraiment exclusivement européenne dans un
premier
temps.
Alors au départ, c'est effectivement défendre le territoire européen dans une seule hypothèse, qui est celle d'une agression soviétique. Ensuite, l'OTAN va s'adapter à de nouvelles missions. En partie, l'OTAN se donne de nouvelles missions après la fin de la guerre froide pour justifier son maintien. Et on entre vraiment dans une autre phase. Il faut peut-être juste rappeler, quand même, pour rester sur cette période de jeunesse, qu'on n'ose pas dire à l'époque que ça n'est que ça, que ça n'est que militaire. Il y a l'article 2 du traité de Washington qui évoque des coopérations culturelles, économiques, tout comme le traité de Bruxelles évoquait aussi des coopérations économiques, culturelles, politiques, etc. Il y a quand même tout un habillage,
une pudeur pour essayer.
On parle beaucoup à l'époque, c'est l'expression omniprésente de communauté atlantique pour justifier cette appartenance à un espace, à une identité, à une culture commune. Bon, les services de communication de l'OTAN aujourd'hui ont assez largement oublié et arrêté de travailler sur ces pistes. Mais à l'époque, c'est important, c'est très important.
Alors, à l'époque, Maurice Weiss, on peut dire que lorsque se présente cette hypothèse de coopération militaire renforcée avec les États-Unis et donc les pays d'Europe, il y a des gens qui sont très favorables, donc qui le sont moins, y compris dans notre pays, et qu'il y a des discussions permanentes, assez tendues, pourrait-on dire, entre les tenants d'une alliance renforcée et ceux qui voudraient juste une aide temporaire, mais pour garder une sorte d'autonomie de ce pays qui est pourtant à genoux, de ces pays européens qui sont pourtant à genoux après la Seconde Guerre mondiale.
Oui, ça ne s'est pas fait tout seul. Tout ça, c'est les choses ont été menées de façon délicate par les gouvernements. D'abord, il faut bien se rendre compte que on est dans une période où le Parti communiste français rassemble environ le quart
25%
des électeurs.
Des voix.
Et par conséquent, il y a une image de l'Union soviétique qui est une image de pays qui a vaincu l'Allemagne nazie, qui a gagné la guerre en Europe, qui a surmonté des difficultés énormes, et par conséquent, il y a, au-delà même de l'électorat communiste, une très grande sympathie pour l'Union soviétique, et voir que peu à peu la France et l'Union soviétique deviennent des adversaires, c'est pas quelque chose qui est bien vu.
C'est l'époque du procès Kravchenko en France, par
exemple,
1949, J'ai choisi la liberté, ce soviétique qui vient et qui publie des écrits qui montrent l'existence de camps dans le camp soviétique et qui est effectivement accusé par beaucoup d'intellectuels français et pas simplement des communistes, effectivement, de mentir.
Et voilà, ce qui donne lieu à un procès retentissant.
À Paris.
Oui, mais même au-delà de cela, il y a dans l'opinion française, au-delà même de l'opinion des communistes et des sympathisants, il y a toute une frange de la société qui est neutraliste. C'est-à-dire qui dit, mais il n'y a aucune raison que la France s'engage pour un camp ou pour l'autre. Et ça me paraît extrêmement important. Par exemple, dans Le Monde mène une campagne extrêmement forte pour dire, nous n'avons pas à prendre parti.
Anaïs Quin.
Oui, c'est peut-être là aussi que se trouve le ressort de cette communication primitive dont vous nous parliez, Jenny Raflick, de miser sur une image culturelle aussi, une communauté culturelle, une communauté d'esprit, une communauté de paix. Mais qui finalement désigne malgré tout une organisation militaire, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Et en 1949, la guerre fait horreur, on en sort à peine.
Alors, en 1949, la guerre fait horreur. Et à partir de 1950, l'OTAN pour les Français, dans le quotidien, c'est la présence de bases militaires sur le territoire français. C'est l'installation de troupes alliées, américaines pour l'essentiel, canadiennes et britanniques aussi. Donc finalement, c'est au quotidien une présence militaire qui, alors les communistes utilisent le terme de l'occupation, qui évidemment est très simple, hein. Si peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande, la présence de troupes étrangères sur le territoire français. Donc visuellement,
parce que la France obtient la possibilité d'être le siège justement européen de cette alliance, de cette OTAN.
Alors c'est le grand paradoxe des gouvernements français, c'est que ils veulent cette présence militaire alliée, mais qu'elle est difficile à gérer vis-à-vis de la communication politique, vis-à-vis des, notamment de l'opposition communiste, qui est très très virulente et qui en fait des thèmes électoraux en permanence.
Il faut peut-être préciser qu'il y a près d'une trentaine de bases uniquement sur le territoire français.
Voilà, à peu près 50 000 soldats américains sur le territoire français. Les grands, le siège, le quartier général de l'OTAN, les grandes installations à la fois civile, bon, ce sera ensuite l'actuelle fac Paris-Dauphine, le siège permanent, mais il y a des établissements à Rocancourt, Fontainebleau, etc. Il y a même une ligne de bus à l'époque dans Paris qui est la ligne de bus Shape. Donc c'est une présence qui se voit au quotidien.
Et des plaques minéralogiques.
Voilà, des plaques minéralogiques.
Sur lesquelles il est marqué NATO. Parce que tout le monde ne comprend pas que NATO et OTAN, c'est la même chose, sauf que c'est en anglais d'un côté ou de l'autre.
Oui, voilà. Il y a beaucoup d'anecdotes comme ça qui illustrent l'incompréhension, la méconnaissance de l'opinion publique vis-à-vis de cette présence militaire alliée après la fin de la guerre.
Maurice Weiss.
Oui, il faut bien rappeler pourquoi il y a cela. Il y a la perception d'une menace à l'Est. Il y a une perception de ce que le général de Gaulle avait appelé une menace qui se trouve à deux étapes du Tour de France et qui peut dévaler cela. Les pays européens sont démunis sur le plan militaire. Il y a une menace militaire soviétique qui est extraordinaire parce que ils ont une très forte armée conventionnelle. Ils sont très proches de la frontière française. Ils sont tout prêts à dévaler toutes leurs divisions.
Et une maison comme la nôtre, d'ailleurs, tient compte de cela, parce qu'il y avait des abris nucléaires sous la tour centrale de la maison de la radio pour pouvoir continuer à émettre.
Toujours, hein, ils sont vides aujourd'hui.
Il faut essayer de se prémunir contre ce danger. Le pacte de Bruxelles n'est pas assez fort. On va demander aux Américains. La résolution Vandenberg réussit à faire cette extraordinaire révolution que les Américains vont passer de l'isolationnisme à une certain interventionnisme en Europe.
Parce qu'on a formulé déjà à ce moment-là, Maurice Weiss, la notion d'endiguement nécessaire contre cette menace soviétique.
Oui.
Il faut prendre position pour éviter tout débordement de cette sphère soviétique qui pourrait montrer des velléités d'extension.
De façon tout à fait progressive, c'est-à-dire que en 1946, il y a ce fameux appel de Winston Churchill qui explique que de Stettin dans la Baltique à Trieste dans l'Adriatique, un rideau de fer est descendu sur toute l'Europe et que Winston Churchill explique que moi je connais bien les Russes, je connais bien les Soviétiques, j'ai beaucoup négocié avec eux, je sais bien que en fait ils ne veulent pas la guerre, mais si on veut se battre contre eux, si on veut faire en sorte qu'ils ne montrent pas leur force, il faut leur montrer la nôtre. Et peu à peu, il va y avoir l'idée que l'Occident doit se réarmer, que l'Europe occidentale doit se réarmer, d'où le pacte de Bruxelles dont on a parlé, d'où aussi, évidemment, cette idée d'endiguement. C'est le fameux télégramme de George Kennan disant, eh bien, il faut essayer de contenir les Soviétiques, parce qu'il y a l'idée que les Soviétiques, qui ont pris un certain nombre de marques en Europe orientale, arrivent de plus en plus vers l'Europe occidentale. Et cela, il faut protéger l'Europe occidentale.
Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Et le premier volet d'une série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire toute cette semaine jusqu'à jeudi autour de la question de la guerre froide à l'occasion du dernier épisode. C'était aujourd'hui donc 78e épisode de notre série hebdomadaire tous les lundis, le feuilleton La Fabrique de la guerre froide. Jenny Raflick, quand on parle de cette guerre froide et quand on vous lit, on se dit, on oublie un peu en ces temps de Brexit le rôle qu'ont joué les Britanniques dans cette affaire-là, qui était un rôle visiblement essentiel pour convaincre leurs partenaires potentiels français en particulier de se lancer dans cette histoire. C'est le rôle de Bevin et d'autres qui, dites-vous, a beaucoup compté pour pouvoir souder, servir de passerelle entre les États-Unis et l'Europe occidentale et en particulier la France.
C'est ça, il faut bien comprendre que les Britanniques jouent un rôle important, mais les Britanniques ne se perçoivent pas forcément comme membres de l'Europe. Alors, ils sont dans l'union de l'Europe occidentale.
C'est ce qu'on leur a souvent reproché.
Voilà, évidemment, mais ils se voient plutôt comme une sorte de trait d'union entre les Américains et les Européens au sein de l'OTAN. Et ça va d'ailleurs se traduire par la mise en place d'un organisme qu'on a un peu oublié aujourd'hui, le Standing Group de l'OTAN, un petit groupe directoire à trois généraux, un Français, un Britannique, un Américain, installé à Washington, au centre du Pentagone, et les Britanniques sont toujours très soucieux de se préserver matériellement dans l'institution même, mais dans les locaux, dans les bureaux utilisés par ce standing group, les Britanniques se préservent toujours le bureau le plus proche des Américains. Ils éloignent les Français, ils essayent de mettre les Français à l'extérieur du Pentagone. Ils les rejettent dans des bâtiments un petit peu plus loin dans la rue. On a ce souci permanent. Je donne cette anecdote parce qu'elle illustre bien, je trouve, ce souci. On a vraiment la volonté des Britanniques d'être le premier interlocuteur à l'égard des Américains.
Anaïs Kien.
Peut-être que pour comprendre ces analyses qu'on propose ici, il faut rappeler quelles sont les missions de cette alliance atlantique, qui vont d'ailleurs beaucoup évoluer, mais en ce début des années 50, c'est une alliance de défense, sans caractère d'obligation de défense en cas d'attaque, pas tout à fait,
oui.
Ça va être un long débat d'ailleurs.
Alors le fameux article 5 dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, évoque une solidarité, mais il n'y a pas d'automaticité. C'est vraiment
des
très
engagements.
Important. Voilà.
À la différence de ce qui était dans le pacte de Bruxelles, où c'était automatique.
Ouais, et donc...
Or, le pacte de Bruxelles a été une catastrophe parce qu'il a opposé Français et Britanniques à la fois sur le plan politique et sur le plan militaire, et sur le plan de rivalité personnelle. Et comme l'a dit tout à l'heure Jenny, il y a en effet une espèce de rivalité extraordinaire entre Français et Britanniques. C'est à qui sera le plus proche des Américains et à qui réussira à prendre les Américains de son côté.
Rappelons tout de même qu'on est bien avant l'arrivée de De Gaulle au pouvoir et qu'effectivement cette amitié ou cette volonté de rapprochement avec les Américains est le propre de la 4e République, donc en particulier dans ses premiers temps, avec cette volonté...
Le propre peut-être de l'après-guerre, de l'immédiate après-guerre.
Et de l'après-guerre.
Oui, parce que c'est eux qui ont le porte-monnaie. C'est eux qui tiennent les cordons de la bourse, ce sont les seuls à pouvoir financer. Faut quand même rappeler la situation très très difficile de la France pendant ces années de 4e République. La France est à reconstruire après la Seconde Guerre mondiale. Le rationnement n'est supprimé en France qu'en 1949. Donc on est évidemment dans des situations budgétaires très 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 compliquées. Et puis il faut rappeler aussi que la France est en guerre. Et là... pas la guerre froide, pas vis-à-vis des soviétiques. La France est en guerre en Indochine, puis en Algérie, elle est en guerre pendant toute cette période.
Et pendant la guerre de Corée aussi, avec un bataillon qui se joindra, même s'il est modeste, mais non, tout de même, il faut bien...
Donc il y a un double dilemme, en fait. Il y a d'un côté la question financière, et puis il y a la question territoriale, coloniale. C'est-à-dire que la France n'a qu'une solution... c'est se reposer sur les Américains pour sa défense, puisque une, elle n'a pas suffisamment de crédit pour s'armer, et deux, si elle a une armée, son armée combat en Indochine prioritairement, et ensuite en Afrique du Nord.
Anaïs Kien.
On voit bien la liste de toutes ces nécessités qui expliquent ce positionnement non critique d'une certaine façon de ces premiers membres de l'Alliance Atlantique. Alors, en 1966, De Gaulle va faire en sorte de quitter l'OTAN,
quitter le commandement intégré.
Mais entre justement ces années 1949 et cette année 1966 où on quitte le commandement intégré, que va-t-il se passer qui puisse expliquer que tout à coup la critique vis-à-vis de cette grande puissance américaine qui nous a sauvés, maintenant ça commence à dater un petit peu, va pouvoir se faire et qu'on va même pouvoir remettre en cause cette hégémonie?
Alors, les critiques, elles existent d'emblée. L'Alliance Atlantique a toujours été critiquée par les neutralistes, par l'opposition communiste, par les gaullistes. L'Alliance Atlantique a toujours été critiquée. Il y a plusieurs phases quand même de rupture. La première rupture, c'est 1950, avec la guerre de Corée.
Immédiatement, finalement.
Voilà, la guerre de Corée est vue comme une sorte d'annonce de la guerre mondiale qui va éclater. Et puis, elle n'éclate pas. Donc finalement, 1950, il y a d'abord dans l'immédiat une demande d'OTAN. C'est l'origine du commandement intégré, c'est l'origine de l'installation sur le sol français des bases américaines. Et puis le temps passe. Et les Soviétiques n'ont toujours pas attaqué. Et puis va arriver Khrouchtchev. Et puis les demandes américaines sont toujours là. Elles sont de plus en plus présentes. Et la menace, elle, Maurice Weiss parlait de la perception de la menace, et c'est ça qui est très important.
Vous spécifiez ce que sont ces demandes américaines.
Alors, les demandes américaines, elles sont très, très nombreuses. Alors, toujours plus d'installations. Et puis surtout, je crois qu'une des prises de conscience, là, au sein des décideurs, c'est quand les Américains commencent, pour ce qui est de l'aide mutuelle, c'est-à-dire les programmes de réarmement, commencent à vouloir imposer aux industries françaises un certain nombre de choix. Vous n'allez pas fabriquer telle ou telle arme, vous allez plutôt fabriquer des pipelines, vous allez plutôt fabriquer telle ou telle. Et là, ça devient de l'ingérence. Et ça devient de l'ingérence, y compris dans les affaires économiques, voire sociales, parce que derrière les industries de défense, il y a les syndicats, il y a les ouvriers. Et ça devient une ingérence insupportable dès lors que la menace n'est plus perçue comme immédiate et aussi importante.
Et puis, une ingérence dont on aurait peut-être voulu, pendant les guerres coloniales du côté français, qu'elle fût plus grande de la part des États-Unis, parce qu'effectivement, on a eu aussi des États-Unis qui ont été du côté, enfin, qu'on a souvent considéré comme du côté des peuples qui voulaient se libérer, qu'ils n'ont pas été véritablement des alliés très sûrs dans les guerres coloniales, et donc on a, à partir de ce moment-là, une distance qui continue à s'accroître entre la France et les États-Unis, parce qu'ils n'ont pas été des soutiens assez fermes dans la guerre d'Algérie. En particulier.
Tout à fait. Pour répondre à la question d'Anaïs et en même temps à la vôtre, Emmanuel, à mon sens, il y a trois grands facteurs. Il y a le facteur qui vient d'être indiqué, c'est-à-dire que la menace, elle diminue tout de même. On a cru que la guerre allait éclater en 1949, on a cru que la guerre allait éclater en 1950. En définitive, elle n'éclate pas. Et puis, voilà que Staline meurt. Alors, un grand soulagement parce que il y a une certaine détente. Donc, moins de menaces. Et par conséquent, les pays européens qui recouvrent un peu leur énergie s'ébrouent et voient un peu plus, avec plus de délicatesse ces Américains qui sont là, qui sont un peu partout dans les bases, etc. Il y a le facteur de décolonisation que vous indiquez, c'est-à-dire que les États-Unis, contrairement à ce que les Français, par exemple, pouvaient imaginer, ne les soutiennent pas du tout, en particulier à l'Organisation des Nations Unies, et c'est vrai en particulier au point de vue de l'Afrique du Nord, où ils jouent carrément les peuples colonisés contre l'ancienne métropole coloniale. Alors ils le font pas de façon totalement ouverte, totalement officielle et totalement forte, mais de façon assez nette, ils montrent bien que leur sympathie va te coller. Et puis, il y a le troisième facteur qui est essentiel, c'est le facteur nucléaire. Parce que les Américains disposent de la bombe nucléaire et qu'ils ont par conséquent l'arme absolue que les Européens, en particulier les Français, n'ont pas. Et de ce point de vue-là, il est clair, comme l'avait dit Kissinger en 1957, que l'arme nucléaire dissout les alliances, dans la mesure où il y a un seul doigt sur la gâchette, et le seul doigt, c'est le doigt américain. Et par conséquent, peu à peu, on voit ce qui est en train de se passer dans l'OTAN et l'Alliance Atlantique, c'est-à-dire que les pays, et en particulier la France, souhaitent prendre un peu plus d'indépendance par rapport à eux.
Anaïs Kien.
On voit bien l'utilité de cette organisation sur fond de guerre froide. On comprend peut-être moins bien, Jenny Raflick, pourquoi il a fallu faire perdurer l'OTAN après la fin de cette guerre froide, après la chute de l'Union soviétique. Pourquoi finalement conserver cette organisation, cette institution typique de cette opposition entre deux blocs dont on essayait de sortir, puisque la fin de cette guerre froide s'est faite malgré tout avec des négociations et des assurances mutuelles pour pouvoir sortir de cet état de fait.
C'est pas allé de soi, hein. Ça a été une vraie discussion, discussion à plusieurs niveaux, discussion entre les alliés, discussion au sein des administrations et notamment au sein de l'administration américaine, très très divisée sur cette question, discussion au sein des différents États alliés et puis au sein du personnel permanent de l'OTAN aussi. À cet égard, la décision de construire le nouveau siège de l'OTAN, celui qui a été inauguré il y a quelques jours, finalement a été très tardive et illustre très bien ces hésitations, puisque l'OTAN est restée très longtemps à Bruxelles dans des bâtiments préfabriqués, comme si finalement...
Comme une organisation transitoire.
Voilà, comme si on attendait d'être sûr avant d'investir dans l'avenir et d'investir dans le dur, dans le bâtiment. Donc il y a eu énormément de discussions. Là aussi, la réponse s'est faite en plusieurs étapes. D'abord, les conflits de l'ex-Yougoslavie, mais l'OTAN a été extrêmement hésitant sur le terrain en ex-Yougoslavie. Et puis, c'est pas l'OTAN qui décide d'intervenir, ce sont les Américains et finalement une coalition américaine, une coalition OTAN. Bon, on est dans des labels, dans des étiquettes. 2001 correspond, alors le nouveau concept stratégique de l'OTAN qui mentionne pour la première fois la lutte contre le terrorisme et la lutte contre d'autres risques, c'est 1999. Donc c'est avant le 11 septembre 2001. 2001 vient finalement conforter un petit peu cette transition, mais on le voit aujourd'hui avec les discussions en cours, les nouvelles missions de l'OTAN, c'est encore loin d'être clairement défini, notamment l'aire géographique d'application. Est-ce que l'OTAN a vocation à être une organisation mondiale, à être voilà, ça reste des débats encore très compliqués.
Mais c'est ce qui est étonnant quand on voit la longévité de cette organisation et en même temps, en apparence, son instabilité, Maurice Baïs. On suit comme ça les aléas de la vie de l'OTAN, de l'engagement, du désengagement potentiel des États-Unis à chaque nouvelle présidence.
Je vais sortir de mon rôle d'historien et je m'en excuse.
Et voilà.
Et je vais dire très simplement que, comme le président François Mitterrand, j'ai été totalement opposé à la perpétuation de l'OTAN. Après la fin de la guerre froide, il fallait évidemment mettre fin à la fois à ce qui se passait du côté du pacte de Varsovie et ce qui se passait du côté de l'Alliance Atlantique. C'était une idée forte de la diplomatie française depuis le général de Gaulle et on n'y a pas réussi. L'OTAN a survécu parce qu'il est vrai qu'elle avait gagné la guerre froide d'une certaine façon. Mais à mon sens, il y a là un vrai problème qui doit être maintenant pris à bras-le-corps par les dirigeants occidentaux et en particulier pour permettre l'émergence d'une défense européenne qui soit séparée de celle des Américains.
Jenny Raflick.
Je vais rester dans mon champ d'historienne. En fait, effectivement, il y avait une opportunité à la fin de la guerre froide, mais elle n'a pas été saisie. Donc aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu différente, évidemment, puisque faudrait trouver une autre justification qui serait, alors, un désengagement des États-Unis. Pourquoi pas, un changement de politique américaine. Mais évidemment, dans un contexte qui a tellement évolué, il est assez difficile de voir comment les choses vont arriver. Et puis d'abord, difficile de savoir si le président américain sera là très longtemps. Donc voilà, on peut pas vraiment écrire l'avenir en l'occurrence. Il y a quand même eu des tentatives, effectivement, à la fin de la guerre froide, des alternatives proposées. Hein. Je pense à la maison commune de François Mitterrand, mais les alliés n'en voulaient pas, les pays de l'Est n'en voulaient pas. Et il faut rappeler que s'il y a bien des pays qui aujourd'hui sont en demande d'OTAN et y tiennent beaucoup plus que les Américains, ce
centrale,
sont les anciens pays de l'Est.
L'Europe centrale
c'est
et
la
orientale.
Pologne, ce sont les Baltes, ce sont les anciens pays du pacte de Varsovie qui voulaient entrer dans l'OTAN, qui demandent aujourd'hui toujours plus de troupes américaines sur leur sol, toujours plus d'exercices OTAN sur leur territoire et qui voudraient vraiment renforcer l'alliance. En cela, l'alliance atlantique, finalement, géographiquement, bon, l'Atlantique s'est déplacé, voilà.
Ça veut dire qu'il est allé un peu dans le continent, c'est ça,
un petit peu plus
au centre du continent. Justement, de ce continent, vous allez parler demain, Anaïs, à propos de votre documentaire que vous avez réalisé avec Françoise Camard. Vous nous l'avez présenté brièvement tout à l'heure. Vous pouvez peut-être, pour nos auditeurs, nous en dire un tout petit peu plus sur ce documentaire.
Oui, c'est un parcours. C'est le parcours d'une jeune fille qui a 26 ans en 1968 et puis un petit peu agacée par les mouvements de 68 qui restent un peu compliqué à appréhender pour elle, qui est d'une famille très communiste et qui se lasse assez vite finalement de cette génération 68 du quartier latin qu'elle a du mal à comprendre dans son incompréhension du monde ouvrier, va décider d'aller voir du pays. Elle hésite entre les États-Unis et l'Union soviétique. C'est plus simple d'aller en Union soviétique lorsqu'on n'a qu'une semaine de congé payé, donc elle y va, et là elle va rencontrer un homme et elle va l'épouser, elle va partir vivre avec lui en Moldavie soviétique pendant quelques années jusqu'à un regain d'antisémitisme administratif dans un premier temps qui les verra revenir en 1974, enfin revenir pour elle, pour Simone, et venir pour la première fois pour son mari Gary Faïf.
Un extrait donc de ce documentaire qu'on pourra écouter demain dans La Fabrique.
Говорит Москва.
Vous et votre mari, quand vous jetiez des papiers à la poubelle, vous les déchiriez et vous les jetiez dans des poubelles différentes.
Je continue.
Pourquoi ?
Parce que tout pouvait faire feu de tout bois. On était sans arrêt sous contrôle. Contrôle de nous-mêmes, c'était peut-être de l'autocensure, mais on était crispés. Tout le monde était crispé en Union soviétique. C'était probablement tout à fait subjectif. Alors, les dissidents vous diront qu'ils avaient raison. D'autres vous diront que c'était une forme de paranoïa. Par exemple, dans l'appartement qu'on nous avait donné, il y avait deux prises qui ne marchaient pas. On était persuadés qu'on était écoutés. Mais on a eu aussi la surprise de nous apercevoir que l'OVIR ne savait pas qu'on avait une voiture alors qu'on l'avait depuis presque un an. Alors qu'on était persuadés qu'à chaque fois qu'on passait devant le... Parce que aux deux entrées de la ville, il y avait un bureau de l'OVIR qui vérifiait les voitures qui passaient ou pas. Jusqu'à maintenant, je suis... Enfin, l'eau a coulé sous les ponts.
Voilà donc un court extrait du documentaire qu'on pourra entendre demain, que vous avez signé Anaïs Quien avec Françoise Camard dans notre série consacrée à la guerre froide. Il faut aussi mentionner que vous étiez la semaine dernière, Jenny Raflick, pour un colloque qui se tenait donc à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, autour de la France et l'OTAN, ce qui prouve bien
que c'est encore d'actualité.
Donc, vous étiez quelques chercheuses et chercheurs à vous retrouver autour de ce thème-là. On va continuer à parler de guerre froide tout le reste de la semaine avec vous. Mercredi, Anaïs, on parlera de la guerre froide vue d'en bas.
Justement, vue d'en bas. Ce que peut-être Janine commençait à nous expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire comment la guerre froide a influé jusque dans les usines, dans les vies locales, dans la vie des travailleurs, dans les vies des syndicats et dans la vie des Français. En l'occurrence, là, on sera un petit peu franco-français pour cette émission-là. On le sera moins jeudi.
Oui. Alors là, vous avez appris quelque chose, parce que, évidemment, je ne savais pas, mais on va faire une émission entière autour de la guerre froide ne s'est pas passée totalement comme on le croit, d'une certaine façon.
Voilà, sur comment des deux côtés, du côté américain, enfin du côté du bloc de l'Ouest et du côté du bloc de l'Est, malgré tout, restent des espaces d'échange, de discussion et de tentatives, notamment au niveau scientifique. Et donc c'est avec trois historiens que nous explorerons ces espaces-là.
Oui, avec Émilien Robin, Nicolas Balalassi et Justine Faure, parce qu'on se parlait quand même pendant la guerre froide, Maurice Weiss. On n'a pas cessé de se parler d'ailleurs.
On n'a pas cessé de se parler. Il y avait des villes faites pour ça. Vienne,
ah oui.
Berlin. Ouais. C'était extraordinaire parce que là-bas, c'était des échanges d'espions et puis surtout des contacts secrets qui se menaient dans ces villes qui étaient les carrefours de la guerre froide.
Et oui, on en avait déjà parlé il y a quelques temps avec vous, Anaïs Quin, de ce Vienne un peu bizarre de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui
de
était
cette plateforme de redistribution entre l'Est et l'Ouest.
Voilà, exactement. Et on pourra vous entendre encore, Maurice Weiss, sur France Culture. Ce sera jeudi. Vous serez l'invité de Thierry Garcin pour la 15e édition des Relations internationales depuis 1945. Grand succès, ça commençait en 90 pour vous et vous rééditez chaque année ou presque.
Tous les deux ans.
Tous les deux ans, cet ouvrage chez Armand Collin qui fait le point sur ce sujet. Ça veut dire que ça bouge aussi dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'on est capable de relire constamment ces périodes, cette période depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui.
Ah oui, c'est totalement passionnant. Moi, j'y passe mes semaines à essayer de faire le point sur ce qui s'est passé et à mettre en relation évidemment avec l'arrière-plan historique, parce que ça n'est pas une chronique, ça n'est pas une pure chronologie, c'est une mise en perspective de ces événements.
Une relecture, une fabrique de l'histoire des relations internationales depuis 1945. Merci d'être venu, Maurice Weiss. Je rappelle que votre livre est chez Armand Collin, et pour le vôtre, Génie Raflick, merci d'avoir été avec nous. La 4e République et l'Alliance Atlantique est publié aux presses universitaires de Rennes. C'était en 2013. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marcet, Francesca Fossati, Bruno Gagné-Fontani nous a accompagné à la technique et Françoise Camard à la réalisation. Vous pouvez évidemment écouter cette émission ou la réécouter en allant sur le site internet de France Culture. Vous pouvez également la télécharger, discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC.